Nous allons faire deux lectures. La première dans Jean chapitre 3. Ça devrait certainement encourager la sœur qui vient de donner le don spirituel. Jean chapitre 3 verset 30. Vous vous rappelez les deux derniers mots de la prophétie ? Certains les ont déjà oubliés. Jean chapitre 3, verset 30. On va prier quelques instants. Certains ont déjà oublié, oui. Notre Père, si ta présence est au milieu de nous, c'est parce que tu veux agir dans chacune de nos vies. Si tu es au milieu de nous, c'est car tu as l'intention de travailler nos vies, de restaurer, de nous changer. Comme un vase est transformé par les mains du potier lorsqu'il se trouve sur le tour, qu'il en soit ainsi ce matin. Qu'il en soit ainsi. Amen. Jean chapitre 3, verset 30. C'est vraiment ce que vous avez entendu. Par ce don spirituel, il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous reviendrons sur ce texte. Nous allons faire une deuxième lecture dans l'Épître aux Éphésiens, où le Seigneur rappelle des choses, pourquoi il a donné des pasteurs. On l'a vu un peu la semaine dernière, cette fois-ci on va le voir d'une manière différente. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ces textes, je vous encourage à les noter, parce qu'ils vous aideront dans la semaine à revenir sur des pensées que je n'ai pas abordées. Certains d'entre nous, nous nous privons de la grâce de Dieu parce que nous ne prenons pas le temps de noter quelques textes. Est-ce que c'est difficile de noter un texte, dire tiens, ce texte, j'y reviendrai. Je me tiendrai devant le Seigneur avec ce texte. Et ce que le pasteur n'a pas dit, peut-être que toi, Seigneur, tu vas me le dire. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà sur ces deux versets le programme. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si, du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et tout le monde peut dire Amen. La vérité, comme dit ce dernier verset, elle produit la sainteté et la justice, les choses justes. Si la parole que j'entends fait que je n'ai pas grandi, que je n'ai pas fait de progrès, on l'a vu. Les pasteurs ont été donnés. Vous avez vu ce texte, il fait réfléchir. Enfin, en tous les cas, moi, en tant que pasteur, il me fait réfléchir. Le Seigneur ne dit pas qu'il a donné des pasteurs pour exhorter, des docteurs pour enseigner, des évangélistes pour évangéliser. Vous avez vu ce qui est écrit? Vous allez me dire, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais le but, il n'est pas là. Le but, c'est d'arriver à la connaissance du Fils de Dieu. Et je crois que nous nous sommes souvent trompés. Bien sûr que ce que je vais dire, ça renverse un petit peu les codes des assemblées. Mais mes frères et sœurs, si on prend le temps de réfléchir, ce texte nous prouve que Dieu a donné des ministères pour que nous fassions des progrès. Vous avez entendu, Dieu a voulu vraiment ce don spirituel qui nous encourage à grandir. Il faut, c'est un impératif. Et sérieusement, honnêtement, on est quand même devant Dieu. On est sous le regard de Dieu, on est venu comme on l'a chanté et on exprime la joie de notre salut avec des cris de joie. Mais on exprime également notre pensée profonde en disant « mais te connaître ». Ce texte, ce chant que nous avons interprété est tiré d'un texte de l'apôtre Paul, vous l'avez reconnu, qui lui soupire à une chose, à le connaître davantage. Et lorsqu'il dit dans Galates, on peut le lire juste avant, c'est quand même intéressant de le voir, la façon dont Paul exprime, la façon dont il connaît Jésus-Christ et quand il veut le connaître mieux. Je ne sais pas si nous voulons connaître davantage le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens au milieu de nous, je ne parle pas qu'ils veulent être bénis davantage, ça je pense qu'on le veut tous, oui ou non? Vous voulez être bénis davantage? Mais à quoi ça servirait si la bénédiction nous éloignait de Dieu? Ça ne servirait à rien. Dans la bénédiction, Dieu sait exactement ce qu'il nous faut. Vous le savez? Dieu peut bénir quelqu'un matériellement. Ah, tu en vois là, pourquoi? Parce que cette personne ne sera pas du tout, influencée par ses bienfaits. Il y a des gens, dès qu'ils ont un petit peu plus, ça y est, ils abandonnent Dieu. Ils n'ont plus besoin de Dieu, ils ont été bénis. Et vice-versa, il y a des gens dans l'épreuve, ils sont complètement paniqués, ils ne comprennent pas, comme David l'exprimait dans ce psaume justement 63, ou dans le désert, on peut être restauré par le Seigneur. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, donc ils ne comprennent rien. Et il y en a un qui se frotte les mains. Regardez ce que Paul disait dans Galates au chapitre 1er au verset 12. C'est important ces choses, on les survole souvent, on ne prend pas le temps de les expliquer, parce que dans les églises, il y a tellement de gens qui sont superficiels que les pasteurs sont contraints à revenir tout le temps au béaba. Alors il en faut du béaba, mais ici il faut des steaks un peu épais. Paul dit ceci aux Galates, verset 12, verset 1er, chapitre 1er. « Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Donc, l'autre jour, je vous ai dit que Paul avait appris beaucoup de choses. D'ailleurs, il le dit, j'ai appris à vivre dans la disette. Justement, tiens, ça correspond bien à ce que je viens de dire. J'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Il l'a appris par des collègues, il l'a appris par des pasteurs, des enseignants, dans les églises. Il l'a appris. Il l'a appris des autres. Et normalement, l'Église est faite ainsi, c'est que lorsque nous faisons des progrès, nous apportons aux autres. Si nous n'apportons pas aux autres, c'est que nous n'avons rien reçu, c'est que nous n'avons pas fait de progrès. Si vous fatiguez les autres plus que vous ne les exhortez, ben ça vous montre l'état spirituel dans lequel vous êtes. Paul exprime bien ce qui s'est passé dans sa vie, et quand vous voyez cet homme, d'où il vient ? Cet homme méchant, religieux, à bloc, à fond, loin du Seigneur, respirant le meurtre et la menace, et cet homme, Dieu va l'utiliser pour révéler sa pensée, pour que l'Église soit édifiée. Un homme que personne n'aurait voulu utiliser, certainement, pas en tous les cas, pas moi. Mais comme on l'a chanté, Dieu y regarde au cœur. Cet homme, comment il a été changé? C'est quand même encourageant de voir ce que Dieu peut faire avec un pauvre type, avec un homme méchant, avec un homme qui respire le meurtre, qui a reçu la révélation pour que l'Église soit enrichie, c'est Paul. Les apôtres qui ont vécu avec Jésus ont reçu certaines choses, mais comparé à l'apôtre Paul, vous allez me dire, qui c'est qui a le plus reçu? Les 12 qui ont vécu avec Jésus 3 ans et demi ou l'apôtre Paul? Et c'est Paul. Pourquoi? Eh bien parce que cet homme, il voulait connaître le Christ. Il voulait le connaître. Et franchement, il n'y a pas du tout dans mon esprit la pensée de culpabiliser. Bien au contraire, c'est qu'on sorte justement d'une culpabilité peut-être. Mais qui peut vraiment dire, il faut qu'il croisse, j'ai grandi, peut-être on pourrait faire le break là et dire, tiens, on est le 15 janvier, depuis le 15 janvier 2016, depuis le 15 janvier 2015, depuis le 15 janvier 2014, etc. Quels sont les progrès que j'ai faits? Est-ce que je le connais mieux, le Seigneur? C'est quand même une question sérieuse. Est-ce que je le connais mieux? Est-ce que je le connais moins? Si je le connais mieux, il est certain que je vais être amené à découvrir moi aussi une plus grande révélation. Vous attendez beaucoup des pasteurs. Et je pense que vous avez raison quelque part. Il y a des choses que vous recevrez par nos ministères, c'est évident, et on a intérêt à se tenir devant Dieu parce que Dieu nous redemandera des comptes par rapport à cela. Mais il y a des révélations que vous recevrez de lui seul. Paul exprime, si vous lisez, relisez, bon ça fait quand même quelques années que je lis et je vois vraiment bien les différences. Maintenant quand je vois les verbes, je sais très bien quelle est la différence entre ce que l'on apprend des hommes et ce que l'on apprend de Dieu. Il y a des gens, ils n'apprendront jamais de Dieu pour la simple et unique raison qu'ils n'ont pas de culte. Regardez, ici même, comment on a du mal à avoir des cultes d'adoration. Alors moi, je ne veux pas contrôler, parce que je pense que l'esprit de contrôle vient du diable. Mais quand même, tout se passe avec ordre, avec bienséance. On a 20 minutes à peu près par semaine pour adorer le Seigneur. Et je répète depuis des années que nos cultes, le dimanche matin, soient des cultes où on loue Dieu, où on l'adore, où on lui apporte notre reconnaissance. Vous êtes d'accord? Bien sûr que si quelqu'un est complètement embarrassé dans le deuil, je ne sais pas, il a le droit de dire « Seigneur, fais-moi grâce, on ne va pas le juger ». Mais quand même, vous ne croyez pas que l'on devrait quand même écouter? Et un culte d'adoration, on est là, « Seigneur, on te loue ». Même pas le louer, l'adorer. Est-ce que vous faites la différence entre la louange et l'adoration? La louange, c'est qu'on le remercie en fin de compte pour tout ce qu'il nous a donné. Vous êtes d'accord? Seigneur, merci pour le salut. C'est de la louange. Quand vous dites au Seigneur, je t'adore, ou je te bénis parce que tu es Dieu, c'est de l'adoration, ça ne concerne que la présence de Dieu. Et je vous dis depuis des années, mais pendant les cultes, adorons, louons, célébrons, soyons remplis de reconnaissance. Il y a plein parmi vous, le faites jamais. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Alors, ce n'est pas à moi de tout contrôler. Moi, je dois faire en sorte que l'Église marche dans l'ordre et la bienséance, la discipline, etc. Mais mes frères et sœurs, il me semble que nous n'arriverons pas à faire beaucoup de progrès, comme on vient de le lire dans les Éphésiens, si Christ ne grandit pas en nous. Car si Dieu a placé des pasteurs, je le répète, ce n'est pas que pour l'exhortation. Bien sûr, vous avez besoin d'une bonne exhortation. Peut-être même vous priez, Seigneur, qu'on ait un bon message. Ça ne veut rien dire. La question qu'il faut se poser, est-ce que nos réunions d'évangélisation, est-ce que nos réunions d'exhortation, d'enseignement, contribuent à ce que la présence de Jésus se manifeste dans l'Église? Est-ce que Jésus se manifeste au travers de ma vie? Car vous l'avez lu avec moi. Pourquoi Dieu a donné des pasteurs? Dieu a donné des pasteurs. On va le relire, s'il vous plaît. Paul, Dieu s'est révélé parce qu'il a cherché Dieu. Paul a pris du temps et Dieu s'est révélé. Et ça sera pareil pour vous. Je ne parle pas du temps pour prier. Je parle du temps pour chercher sa présence. Est-ce que vous faites la différence entre prier et demander à Dieu? Vous voyez, entre la louange, l'adoration, et le fait de le chercher à lui, d'aimer vous retrouver dans sa présence. Est-ce que c'est important pour vous? Ou est-ce que vous n'avez pas le temps? Parce que le monde vous sollicite. Parce que, je vais le dire peut-être un petit peu raide, mais c'est comme ça, parce que vous aimez le monde. Oui ou non? Il y a des gens qui aiment le monde. Ils aiment Dieu, mais ils aiment surtout le monde. Et tout ça, ça les éloigne de la croix, ça les éloigne de la présence de Dieu. Ils n'ont pas le temps, mais moi je n'ai pas le temps, vous plaisantez. Tu n'as pas le temps, c'est que tu n'as pas envie. Et ce n'est pas un reproche, hein. Moi je n'ai aucun reproche à faire, hein. Mais il faut dire les choses. Paul a eu besoin de cette révélation. Qu'est-ce qui aurait pu changer Saul de Tarse? Une bonne prédication? Une bonne église? Non. La seule chose qui pouvait transformer Saul de Tarse, le méchant, à un homme rempli du Saint-Esprit, c'était une révélation. Et si nous voulons faire des progrès, comme on va le relire dans Éphésiens, quand même, c'est bien de le relire. Pourquoi Dieu a donné des pasteurs? Et vous devez prier dans ce sens, lorsque vous priez pour les pasteurs des églises, Seigneur, qu'ils puissent te révéler. D'accord? Éphésiens chapitre 4, on le relit le verset 11, 13. Relisons-le, mes frères et sœurs. Vous l'avez lu avec moi, mais rien qu'avec le peu que je viens de vous apporter, vous allez voir que vous allez le lire différemment. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, le mot docteur c'est enseignant, c'est comme c'est un. Mais c'est le mot enseignant, pour le perfectionnement des saints. Donc, le premier but, vous voyez, c'est que je fasse des progrès, que je me perfectionne. Est-ce que c'est important pour vous de faire des progrès? Paul, vous rendez compte, ce que Paul pouvait dire, c'est, mais c'est quelque chose de vous. Il disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Vous rendez compte, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui pourrait dire, imite-moi? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Mais cet homme était tellement rempli de Christ, parce qu'il vivait au calvaire. Il vivait en la croix, on le chante, mais pour beaucoup de chrétiens, la croix, non, la croix c'est le début. Après, on n'en a plus besoin. La croix, c'est toute notre vie. La prédication de la croix, c'est une puissance. S'il y a une puissance dans l'Église, c'est bien la prédication de la croix. Et l'ennemi fera absolument tout pour nous éloigner de la croix et nous faire vivre justement dans un programme super bien. Vous voyez, un programme d'évangélisation, c'est super bien. À quoi ça sert de l'évangélisation sans que la présence de Christ soit manifeste au milieu de nous? À quoi ça sert de l'édification si je ne grandis pas dans la présence de Jésus-Christ? À quoi ça sert l'exhortation, etc. C'est pour ça que ce texte est clair. Il a donné des ministères pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Une église, elle doit être édifiée, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de spiritualité. Ce qui caractérise une église, ce n'est pas la quantité de membres, ce qui caractérise la véritable église, c'est que les gens soient spirituels. Des fois, nous, mais voyez comment on est blindé de préjugés. Ah, il y avait du monde ce matin. Le problème, ce n'est pas la question, ce n'est pas la quantité qui détermine la présence de Dieu. Est-ce que ce matin, il y a la grâce de Dieu et la paix dans ton cœur? Ça, c'est une question certainement un petit peu plus utile. Qu'il y ait 10 personnes de plus ou 10 personnes de moins, bien sûr, c'est mieux qu'il y en a plus. Mais je veux dire, c'est pas ça qui va amener la bénédiction. Comment je suis venu? Est-ce que je comprends qu'une prédication, parce que moi je suis prédicateur, je suis pasteur, donc mon travail à moi, c'est de vous exhorter à comprendre les choses qu'il faut apprendre par moi ou par d'autres. À comprendre qu'il faut que le Seigneur se révèle davantage. D'ailleurs, il le dit, on l'a chanté. Ce qui m'intéresse à moi, d'ailleurs, il a tout plaqué. Il a dit, moi je renonce à tout. Pourtant, il avait quand même des diplômes et tout ce que vous voudrez. Je renonce à tout, pourquoi? Pour connaître Jésus-Christ. Et si nous ne connaissons pas Jésus-Christ, nous allons avoir de la difficulté avec l'édification du corps de Christ. Pourquoi tant de gens n'aiment pas... Peut-être que je vais un peu loin là, ça fait rien. C'est pour aller plus vite, hein. Pourquoi tant de gens n'aiment pas l'Église? Je ne parle pas le 9 rue Saint-Guilhem. Pourquoi tant de gens ont du mal avec l'Église? Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Jésus est la tête. Alors on ne peut pas aimer que la tête d'un corps. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui est en communion avec la tête va incontournablement se rapprocher du corps. Et quand vous lisez bien ce texte, j'ai passé la semaine. Alors, vous comprenez que je commence à réfléchir. Le perfectionnement des saints amène l'unité des chrétiens. Et le diable fera tout pour que, justement, je ne sois pas dans cet esprit, parce qu'il est comme ça, même s'il se révèle. Vous vous rappelez quand Jésus a fait un petit sondage, il a dit, qui dit-on que je suis? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ah, les uns disent que tu es le prophète, il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie. Bon, ce que les autres pensent, c'est... Et vous? Parce que ce que les gens pensent de Jésus, c'est une chose. Mais toi, mon frère, qui est Jésus pour toi? Et Pierre, qui avait dû passer certainement du temps dans la prière, puisque Jésus va le dire, quand il va lui exprimer ce qu'il pense, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Pierre va s'entendre dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont appris cela. Ce n'est pas un pasteur qui te l'a appris, même pas moi. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que Pierre, malgré son caractère un petit peu impétueux, etc., qui va être au fur et à mesure transformé pour devenir l'homme qu'on sait, cet homme, on en a c'est la preuve, même si ce n'est pas écrit, il se tenait devant Dieu. Et il savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Quelques minutes après, le Seigneur Jésus va leur parler aux douze de la croix. Et il va leur dire, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il souffre, qu'il soit mis à mort, qu'il soit livré, etc. Et Pierre, avec une gentillesse et une sympathie extrême, va lui dire, ah non, c'est hors de question, on va trouver notre solution. C'est un principe courant là. On va trouver notre solution. À Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Il est hors de question que tu vives cette affaire de crucifixion. Je le dis en français normal. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il aimait Jésus. C'était très affectueux, c'était très gentil. Vous êtes d'accord avec moi? Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il s'est dit, non, je ne veux pas que notre Seigneur il aille mourir sur une croix. Non! Et Jésus, il n'a pas dit, tu sais, t'es gentil, Pierre. Vraiment, t'es sympa. Et nous, on est là, nous, dans le sympathie. On veut être gentil. Ton pasteur, est-ce qu'il est gentil? Je l'ai entendu, ça. Votre pasteur, est-ce qu'il est gentil? Le problème, on n'a pas besoin que le pasteur il soit gentil. On a besoin que le pasteur il soit spirituel. C'est ridicule, un pasteur est gentil. Tant mieux, bien sûr. Normalement, s'il est spirituel, il devrait être assez sympa. Mais en fait, ce n'est pas grave. Il faut qu'il soit spirituel. Même si le message qu'il apporte n'est pas très sympa, mais un avertissement. Et Jésus ne va pas dire, mais tu sais, vraiment tu es gentil Pierre, vraiment tu es vraiment un chic type. Non, il a dit quelque chose de terrible. Arrière de moi Satan, tu mets un scandale. Pourquoi? Parce que dans le cœur du Seigneur, il faut que Jésus se révèle. Dans nos églises, dans nos cultes, et c'est vrai que moi j'ai hésité à faire cette prédication, parce que je sais que beaucoup de chrétiens sont tellement en vrac, tellement découragés, tellement loin, qu'ils ont du mal avec une entrecôte. Mais quand même, si l'Esprit de Dieu nous conduit, nous devrions, cette année voulant, faire de véritables progrès. Est-ce que je crois, comme je grandis, comme la prophétie vient de le dire, grandis spirituellement. C'est un ordre. Est-ce que vous aimez les ordres? Ah non, pas dans l'église, s'il vous plaît. Comme hier, je disais que Dieu résume l'amour à un commandement. Je vous donne un commandement, aimez-vous. Ah non, pas de commandement, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, tous les ordres de Dieu, tous les commandes de Dieu ne sont que des invitations à la bénédiction. Quand on n'a pas compris ça, c'est que quand même, bon qu'on n'ait pas compris ça au bout d'un an de conversion, je veux bien. Mais quand on a 7 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans de conversion, et qu'on n'a pas encore compris que les commandements de Dieu sont tous justes, la vérité, on l'a lu, elle produit la sainteté et la justice. Et donc Jésus apostrophe, alors que quelques minutes avant, il avait été loué pour sa révélation, là il a apostrophé de manière sévère, très sévère. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous éloigne de la croix est scandaleux. Et une église qui s'éloigne de la croix est une église qui pourra faire de l'évangélisation tant qu'elle voudra, de l'enseignement tant qu'elle voudra, de l'édification tant qu'elle voudra, ça servira à rien. Dieu a donné des pasteurs. Dieu a donné des pasteurs pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Il faut qu'ils croissent plusieurs fois, Paul dira, mais soyez tous mes imitateurs. Je vous en conjure dans 1 Corinthiens 4, 6. Soyez mes imitateurs. C'est écrit dans Éphésiens. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez les imitateurs de Dieu. Jésus, dans le sermon sur la montagne, moi, ce verset, quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai dit, c'est pas possible. Je savais que c'était vrai. Je me suis dit, mais tu comprends rien. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Moi, je dis, Seigneur, là, c'est. La barre, elle est quand même haute. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, bien sûr que nous ne serons jamais comme Dieu, même au ciel. Mais mes frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons continuellement et jusqu'à la fin faire des progrès. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous arrêter, nous devrions vraiment faire des progrès. Et ça, c'est une question, ce n'est pas une question, ça n'a rien à voir avec les autres, c'est une question personnelle. Ça ne dépend pas des autres. Si vous ne faites pas des progrès, ça peut. C'est vrai que les pasteurs peuvent fermer le royaume des cieux. Est-ce que c'est écrit? C'est vrai que les pasteurs ont une responsabilité terrible. Vous voyez, si je vous dis, voilà, je suis là, votre pasteur, il faut faire de l'évangélisation. Il faut faire de l'évangélisation. Non! Il ne faut pas faire de l'évangélisation. Vous avez compris, hein? Il faut que Jésus se révèle de plus en plus dans nos vies. Que je réalise qu'il est vivant. Est-ce que je réalise que Dieu est vivant? Il est le Dieu vivant. Pourquoi David pouvait composer des psaumes comme le psaume 63? Comment c'est possible? Parce qu'il le dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Il le connaît. Beaucoup de gens parmi nous ne le connaissent pas. Ils ont fait des expériences. Béni soit Dieu. Ils ont été guéris. Gloire à Dieu. Mais moi, je voudrais que tout à l'heure, on ait un moment, on ait quelques minutes pour prier pour un malade. Moi, je crois que le Seigneur, au milieu de nous, veut le guérir. Gloire à Dieu. Moi, je crois que si quelqu'un a un problème physique, psychique, etc., est-ce que le Seigneur peut intervenir si nous l'honorons? J'honorerai celui qui m'honore. Mais est-ce que nous honorons Jésus lorsque nous venons par habitude, lorsque nous arrivons à la bourre, etc., lorsque... Il y a des gens qui arrivent pour la prédication. Je ne veux pas juger. Franchement, ce n'est pas intelligent d'ailleurs. Mais moi, il me semble que quand on a un rendez-vous dans l'église, moi, c'est d'abord avec le Seigneur qu'on l'a. Oui ou non? Quand vous venez le dimanche, parce que moi, vous me voyez comme votre pasteur, mais je disais tout à l'heure à notre jeune pasteur, je disais, mais moi, je suis chrétien. Je ne suis pas pasteur, d'abord. Je n'ai pas un titre. Moi, le titre, ça n'a rien à faire. Moi, je suis chrétien. Et j'ai une fonction. Celle de tout faire pour recevoir moi aussi une révélation, pour vous amener à avoir la pensée du Seigneur. Et quand on lit ce texte, il faut y réfléchir. Bien sûr que des fois, il y a des gens, ils lisent pour lire. Mais quand même, ça vaut la peine d'y réfléchir. Oui, Dieu a donné des pasteurs pour le perfectionnement des saints. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Comment je le connais? Ce matin, vous pourriez dire, mais comment je... Oh oui, il m'a guéri. Ouh là, j'étais malade. Trois fois, j'ai eu une sciatique. J'avais mal à la tête une fois, j'ai prié, il m'a guéri. Ah ouais, il guérit. Ouais, mais je pense quand même que c'est au-delà de ça quand même. Il y a des gens, quand ils parlent de Jésus, mais c'est clair, ils ne le connaissent pas. Ils ont fait une expérience. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous voulez faire une autre expérience avec Dieu? Bien sûr, mais oui. Ou est-ce que vous voulez faire l'expérience avec un E majuscule? Celle de dire, il a plu à Dieu de révéler son Fils à moi. Il n'y avait qu'une révélation qui pouvait transformer cet homme méchant, mauvais, dont le Saint-Esprit nous dit qu'il respirait le meurtre. Quand vous discutiez avec Saul de Tarse, vous respiriez avec un homme qui respirait le meurtre. Vous savez, vous avez discuté avec des gens qui respirent des fois la haine ou la tristesse, vous voyez, des gens, on le sent. Il y a des gens, ils respirent vraiment. Mais de là à respirer le meurtre et la menace, et Jésus s'est révélé. Est-ce que ce que Dieu a fait pour Paul, est-ce que Dieu peut le faire pour vous? Mais est-ce que c'est notre prière ou est-ce que c'est le monde? Parce que, franchement, vous le savez, je le dis souvent, celui qui se fait ami du monde, il est ennemi. Et il y a des chrétiens, ils aiment le monde, ils ne se l'avouent pas, ils sont tellement aveuglés, et il faut que le Saint-Esprit leur parle de la même manière que Jésus a parlé à Pierre. Pierre, mais tu mets un scandale arrière de moi, Satan. Alors que 5 minutes avant, il venait de lui dire, mais c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'on a intérêt à veiller, à pas passer vite du spirituel au charnel. Et que nous devons absolument veiller à nos pensées, veiller à notre façon de comprendre la croix. Les gens ne comprennent pas la croix. Pourquoi il y a tant de rétrogrades? Pourquoi il y a tant de rétrogrades? Pourquoi il y a tant de chrétiens qui sont complètement dans la défaite? Je sais qu'on a des hauts et des bas. Je sais qu'il y a des déserts. Je sais qu'il y a des épreuves. Je sais qu'il y a des mauvais jours. Je sais qu'il y a des combats et des luttes. Je le sais. Mais est-ce qu'on peut être dans un désert, dans la victoire? Est-ce qu'on peut être dans la maladie, dans la victoire? Mais bien sûr. Quand Jésus dit « arrière de moi, Satan », il faut qu'on réfléchisse. C'est que si nous aussi, nous éloignons l'Église, le corps de Christ, de la croix, eh bien on fait l'œuvre de Satan. Peut-être que c'est difficile pour certains à comprendre, mais moi je peux vous dire que dans une Église où on éloigne le corps de Christ du calvaire, laissez-moi vous dire qu'on n'est pas sur le terrain du Seigneur. Vous me suivez? C'est archi important. Et mes frères et sœurs, l'Église, le corps de Christ, quel que soit le nombre, quelle que soit la dénomination, doit être sur le terrain du calvaire. Parce que la puissance de Jésus-Christ, elle se manifeste à la croix. Et moi je le dis, mais moi ça me brise le cœur. En plus, je suis peut-être responsable. Il y a des chrétiens, ils ont 50 ans de conversion, par exemple, ils sont toujours grossiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Sérieusement, quelqu'un qui 30 ans de conversion, il est toujours vulgaire, un sale caractère. Il est toujours, mais parce qu'il est, il s'est jamais tenu au calvaire. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Ou alors, c'est grave si vous ne le croyez pas. Qu'à la croix, il y a la puissance de Dieu. Vous le croyez qu'au calvaire, il y a la puissance du Saint-Esprit? Vous le croyez que lorsque l'on prie et que Dieu voit notre cœur, comme les jeunes l'ont chanté tout à l'heure, Dieu entend mon cœur, tu vois mon cœur. Je suis là, tu voulais me parler, tu veux me montrer qu'il faut que je fasse des progrès. La prophétie était catégorique, grandis spirituellement, il faut qu'il croisse. On lit le verset, on n'a pas lu le verset 14. Ainsi nous ne serons plus des enfants. Emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Il y a des gens qui croient n'importe quoi. Il y a des chrétiens, ce que je vais vous dire, ça va vous choquer, mais je sais que c'est vrai, parce que c'est en train d'arriver. Il y a des chrétiens, on pourrait les ramener à l'adoration de Marie. Est-ce que vous le croyez? Des chrétiens de chez nous. On pourrait les ramener à la mariologie ou à la mariolatrie, comme vous voulez, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'ils croient n'importe quoi. Ils ne sont pas sérieux avec la vérité. Les gens qui se repentent et qui se convertissent et qui naissent de nouveau, ils sont soucieux de la vérité. Nous ne serons plus des enfants emportés à tout vent des doctrines, mais, verset 15, en professant la vérité dans l'amour. Je ne la dis pas la vérité, je la professe. C'est-à-dire que je la vis. Il y a une grande différence entre confesser et professer. Le premier conseil que m'a donné mon pasteur qui m'a formé, il m'a dit, Gérard, la vérité ne la dis pas, vis-la d'abord. Ça ne sert à rien de dire la vérité si on ne la vit pas, d'ailleurs ça ne passe pas. On passe pour des, excusez-moi, mais pour des guignols. Quand on ne vit pas ce que l'on prêche, surtout quand on est les porte-parole du Seigneur. En professant la vérité, nous croîtrons. À tous égards, comment? En Christ. Mes frères et sœurs, mon message, il n'est pas compliqué. C'est, voulons-nous que Jésus-Christ se révèle? Voulons-nous, parce qu'il y a un prix à payer, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se faire, en disant, Seigneur, révèle-toi, je n'ai pas le temps. Écoutez-moi bien, si vous dites, je n'ai pas le temps, ce n'est même pas la peine que vous lui demandiez. Il faut du temps pour que le Seigneur se révèle. Il faut du temps de qualité, pas pour prier, pas pour demander, pas pour juste avoir certaines faveurs de Dieu. Ne vous inquiétez pas, si vous cherchez la présence de Dieu, vous n'aurez pas besoin de lui demander des faveurs. Je peux vous... C'est écrit ou non ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, il y a des gens qui, toute leur vie, ils s'affolent, Seigneur, fais-moi ça, bénis-moi, Seigneur, bénis mon patron, incline son cœur, tu vois, il a du pognon, tu pourrais... Seigneur, voilà, il y a des gens, ils sont toute leur vie là, demander, alors que le Seigneur leur dit, arrête-toi, et que tu puisses me révéler, que tu puisses voir combien je suis vivant. Quand c'est peut-être Paul qui a écrit les Hébreux. Quand il est écrit dans les Hébreux, prenez garde, frère. Ah, encore un avertissement. Prenez garde, frère, que quelqu'un au milieu de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule afin de se détourner du Dieu vivant. Monsieur Olé, je pensais à vous hier, monsieur Olé. Parce que monsieur Olé, il m'a appris beaucoup de choses. Et il m'a appris à tenir compte des contextes. Et ce verset, j'ai dit, tiens, le contexte, c'est quoi ? Le contexte, c'est que les Hébreux n'ont pas pu rentrer dans la promesse. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu un cœur mauvais. Un cœur mauvais, c'est quoi ? C'est un cœur qui remet toujours en question. Mes frères et sœurs, soyons simples et intelligents. Si Dieu m'inspire ce matin, si ça vient de Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu veut se révéler dans notre assemblée. Et que Dieu veut manifester. Donc, s'il veut se révéler, c'est pour qu'il puisse manifester sa présence. Car c'est quand le Saint-Esprit est au milieu de nous qu'il convainc les gens. Si le Saint-Esprit n'est pas là, s'il n'y a pas de conviction de péché, c'est que le Seigneur n'est pas beaucoup au milieu de nous. Donc, nous ne devons pas nous occuper trop de la part du Seigneur, mais nous occuper de notre part. Qu'est-ce que je fais pour que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous ? Est-ce que j'ai cette communion avec Dieu qui fait que j'attire la grâce divine, j'attire la miséricorde de Dieu, j'attire la faveur de Dieu, parce que quand même c'est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce que ce matin, prenons un exemple, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe, la santé de l'Église, ou est-ce que vous dites, mais moi j'en ai rien à cirer moi. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si vous parlez mal du corps de Christ, vous allez très mal. Je le redis, parce que je sais qu'il y en a qui n'écoutent pas. Je le sais par rapport à ce que je vous dis tout à l'heure. Ça fait des années que je dis le dimanche matin pendant un quart d'heure louer le Seigneur. Qu'est-ce que les gens font ? Ils prient. Mes frères et sœurs, l'Église, c'est le corps du Seigneur. Vous êtes d'accord ? On ne peut pas séparer, je l'ai dit, la tête du corps. Et le diable... Le diable, il est rusé beaucoup plus que ce qu'on pense. Et une chose est sûre, plus, je le répète, plus vous vous approcherez de la tête qui est le Christ, plus vous vous approcherez de l'Église. À condition, bien sûr, que l'Église soit spirituelle, parce qu'il y a des églises aussi. Alors là, je dis ça pour les gens qui m'écoutent, qui sont en vrac et qui ne peuvent plus aller dans une église, tellement tout le monde est en vrac. Et c'est vrai que ça devient un problème lorsque vous allez dans une église où tout le monde est découragé, tout le monde est dans la défaite, tout le monde est dans l'impiété. Bon, alors moi, je n'ai pas à juger, mais c'est sûr qu'on est loin des vainqueurs dont Jésus parle dans l'Apocalypse. Il faut travailler à ce que la présence de chacun amène l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce que je fais pour l'édification du corps de Christ ? Qu'est-ce que vous diriez si je venais les mains dans les poches en disant « Oh, moi, je n'ai pas préparé hein. ». Moi, les frères, moi je prêche d'abondance, je n'ai pas besoin de me préparer. J'ai confiance, moi. Vous verriez à la 5e ou 6e prédication comment vous changeriez d'avis. Est-ce que je travaille en tant que chrétien pour l'édification du corps de Christ ? Qu'est-ce que je fais de ce que je suis en train d'entendre ? Qu'est-ce que je fais de cette prédication ? Il faut qu'il croise, vous avez entendu juste avant la prédication, grandis ! Il faut, c'est un impératif. Un chrétien, il doit faire des progrès. Un chrétien, il doit connaître davantage le Seigneur. Il ne fera pas des progrès en évangélisant davantage. En faisant des œuvres. Et nous, dans les églises, on est complètement à côté. Toutes les églises. Une, ça va être les œuvres. Une, ça va être l'évangélisation. Une autre, ça va être l'enseignement. Une autre, ça va être sur tout un tas de programmes qu'il faut absolument développer dans une église parce qu'il faut un programme. C'est pas vrai. Le seul programme, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Vous comprenez ce que je vous dis ? Le seul programme, c'est Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit le premier. Est-ce que Paul a dit que Jésus-Christ soit en tout le premier? Il est le premier. Tout dépend de Christ. Il a tout créé. Tout a été créé par lui, pour lui. Tout sera réuni en lui. Le jugement, c'est lui qui l'accomplira. Tout dépend de Christ. Et dans une église, on devrait dire, mais est-ce que je dépends de Christ? Est-ce que Jésus pourrait se révéler davantage? Est-ce que Jésus pourrait se révéler davantage dans mon âme? Est-ce que mon foyer pourrait être sous cette grâce de Dieu? Est-ce que vous n'avez pas envie que quand un pécheur rentre dans l'église, il soit convaincu de péché? Vous vous rendez compte qu'il y a des chrétiens, mais ce que je vous dis c'est grave, hein? Il y a des chrétiens qui viennent dans les églises, ils ne sont même pas eux convaincus de péché. Des chrétiens. Je ne parlais pas tout à l'heure des chrétiens grossiers, il y a les chrétiens avares, les chrétiens... Je ne sais pas moi, des chrétiens qui n'ont rien compris. Ils viennent dans l'église, ils ne sont même pas convaincus de péché. Les chrétiens qui sont censés avoir l'Esprit de Dieu en eux. Alors on pourrait quand même s'autoriser, puisqu'on est quand même sous le regard du Seigneur, à se poser des questions. Comment se fait-il qu'un chrétien ne soit pas convaincu de péché? C'est une bonne question, non? Ben oui. Comment se fait-il que tant de chrétiens soient vraiment encore dans une confusion? Si les chrétiens ne sont pas convaincus de péché, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas beaucoup au milieu de nous. Parce qu'il faut faire, il faut être honnête. Hein. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il enverra le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra les gens de péché, de justice et de jugement. De jugement pourquoi? Parce que le prince de ce monde est jugé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avions vraiment la vie de l'esprit, je fais une petite digression, mais c'est quand même pour expliquer une vérité, c'est que si vraiment le Saint-Esprit était au milieu de nous, le prince de ce monde est jugé, ça veut dire que nous avons la victoire sur Satan. Une église de vainqueurs, elle a la victoire sur Satan. Et le seul moyen, c'est pas, allez, on va faire des évangélisations, de l'évangélisation. Bien sûr qu'un chrétien qui est, je pense qu'un chrétien qui, en qui Jésus-Christ habite, il va évangéliser par sa vie. Vous croyez oui ou non? Je pense qu'il n'a même pas besoin de parler. À moins, il y a des personnes nouvelles qui ne le connaissent pas. Mais je crois que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, sa vie est une lettre lue. Et nous, on s'acharne. Il faut gagner des âmes. Il ne faut pas gagner des âmes. Ça vous choque ce que je vous dis. Mais vous avez très bien compris le contexte dans lequel je dis. Il ne faut pas gagner des âmes. Il faut que Christ grandisse dans ma vie. Il faut que la présence de Christ grandisse. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et il y a des choses, il faut que ça diminue. Il y a des traits de mon caractère, il va falloir régler ça. J'y arrive pas. Mais qui vous a dit que vous y arriveriez par vos forces? Hier soir, on a vu quand j'ai prêché sur le couple, la formation du couple, et quand Dieu dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle. Notre modèle, c'est la parole. Et quand il est dit, on va le lire. Pour vous expliquer qu'on tourne en rond, mais parce qu'on a, regardez, c'est dans Jean 17, on a pris ce texte, un des textes, pour expliquer quel c'est le modèle. Alors c'était Jean 17, oui, que je ne me trompe pas, Jean 17, verset 26, regardez là, d'où elle vient la grâce. Qu'est-ce que Dieu dit? Quel est le modèle? Jean 17, mais c'est, en plus c'est d'une simplicité, mais si le Christ ne se révèle pas, on ne voit pas ces choses. Et l'Église ne réalise pas que Dieu est vivant au milieu de nous. Jean 17, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, ça c'était pour nous, afin, regardez bien, quel but, afin que l'amour dont tu m'as aimé, où il soit, soit en eux. Et que je sois en eux, dont la victoire, ce n'est pas vous. La victoire, c'est lui. Et si vous n'arrivez pas à vous dépatouiller d'un truc, je ne sais pas, du tabac, de quelque chose qui vous suit depuis des années, mais faites l'expérience. Faites l'expérience. Je vous parle du tabac, je vous parle du caractère. Juste, il y a plein de tout, vous le savez, tout ce qui est charnel. Peut-être de la paresse. Hein. Mais on est inexcusable. Quand on lit un texte comme celui-ci, Jésus dit, mais que l'amour, ton amour soit en eux. Mes frères et sœurs, tenons-nous dans la présence de Dieu et son amour viendra. Et nous, on essaie de tout faire. Ouais, j'arrive pas, j'en ai marre, j'en peux plus. Et voilà, on essaie de faire les choses avec nos propres forces. Alors on est là, on a des réunions de louanges, je ne parle pas ici. On a des réunions où les gens, ils écoutent la louange toute la journée. Mais le problème, c'est qu'ils n'entrent pas dans la présence de Dieu. Vous le croyez que Dieu est vivant? Que lorsque vous entrez dans votre chambre et que vous vous isolez, vous pouvez vous adresser à votre Père et que votre Père céleste agira? Vous le croyez ça ou vous ne le croyez pas? Mes frères et sœurs, Paul dira, moi je veux que tu te révèles. Je veux rien d'autre. Je suis prêt à tout abandonner. On l'a chanté. Mais voyez, si on le rechantait ce cantique maintenant, je pense qu'on le rechanterait différemment. On chante des choses, il y avait un pasteur qui avait dit, s'il y a bien un domaine dans lequel les chrétiens mentent, c'est bien dans le domaine du chant. Et c'est vrai. Mais mes frères et sœurs, la solution, c'est que les pasteurs reçoivent la pensée de Dieu pour que Jésus-Christ se révèle. Pour que Jésus-Christ grandisse. Et c'est pour ça, prier pour les pasteurs. Moi, toutes les demandes, toutes les semaines, Monsieur Gou, venez me voir, Monsieur Gou, venez me voir. J'attaque que ça. J'attaque que ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je cherche la pensée de Dieu ou que j'aille boire le café chez les mémés? Qu'est-ce que c'est que Dieu me demande? Moi, j'aime boire le café chez les mémés. Elles sont super sympas, les mémés de l'église. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande à un pasteur. Les pasteurs, il faut prier pour eux, pour qu'ils cherchent la pensée de Dieu, afin que l'édification du corps de Christ soit faite. Et que nous aimions le corps de Christ. Mes frères et sœurs, demandez-lui. Donne-moi de l'amour pour l'Église. Celui-là, je ne peux pas le saquer. Et moi, ça me fait pas rire, j'apprécie que personne ne rie. Parce qu'il y a des gens qui rient des fois pour des trucs graves. Mes frères et sœurs, quand l'amour de Dieu est en nous, vous aimez les ennemis même. Vous priez, ça ne veut pas dire que vous leur sautez au cou, mais ça veut dire, Seigneur, bénis telle personne. Je veux qu'elle soit sauvée. Même si je suis en désaccord avec elle, ce n'est pas votre amour ça, c'est l'amour du Seigneur. Il a donné les uns comme pasteurs pour l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la connaissance du Fils de Dieu. Alors moi j'aimerais qu'on puisse, je vais commencer mes notes quand même, mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut dire, Seigneur, je veux que tu te révèles? Je ne sais pas ce que vous respirez, mais même si vous respiriez la grâce comme Apollos, je donne cette pensée parce qu'on a parlé de l'apôtre Paul, de Saul de Tarse qui était vraiment un mauvais religieux, mais pensez à Apollos, vous connaissez Apollos? Cet homme versé dans les Écritures, c'était quelqu'un de bien à Éphèse. Et pourtant, il a fallu qu'il ait l'humilité, cet homme, d'accepter qu'un certain Aquila et une certaine Prisca le prennent dans la maison et lui fassent vraiment découvrir la vie de l'esprit, la vie du calvaire. Et pourtant, vous voyez, c'était Apollos, vous voyez, pour être équilibré. Mais je ne sais pas ce qu'on respire, si on respire la grâce de l'enseignement comme Apollos ou la méchanceté comme Saul de Tarse, mais une chose est sûre, si le Seigneur se révèle, je ferai des progrès. Alors j'aimerais qu'on se recueille, vraiment. Je voudrais que vous vous recueilliez, s'il vous plaît. Et que vous lui parliez, entame mon cœur. Seigneur, tu vois où j'en suis. Tu vois le mari que je suis avec mon épouse. Tu vois le père que je suis avec mes enfants. Tu vois combien je suis méchant avec peut-être ma femme. Combien je déteste les gens. Seigneur, tu vois combien je souffre, je suis de la haine contre un type ou contre celui-ci. Que l'amour qui était en toi, Seigneur, soit en moi.